Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 566, plus que 100 épisodes avant la fin des podcasts de Gameblog et la fin du monde, au passage. Aujourd'hui avec moi, nous avons Johnny One.
Bonjour.
Bonjour, toujours en direct de sa salle de classe.
Tout à fait, exactement.
C'est un peu notre professeur Klein à nous, Johnny One, voilà. Je ne sais plus que c'était quoi le rôle. L'instit, bah oui, voilà, l'instit, c'est vrai.
Ah là là. Ah, moi j'ai des plus grands.
Comment ?
J'ai des plus grands, j'ai pas des petits.
Oui, bon,
non, c'est, non, Johnny One, c'est plus
fantasmé un peu, quoi.
Johnny One, c'est plus Michel Pfeiffer dans Esprit Rebelle.
Ouais. Ouais, ou plus Tom Berenger dans The Substitute, mais c'est une autre histoire. Nous avons aussi Thomas en direct de la rédaction.
Coucou, qui n'a capté aucune des références que vous venez tous de balancer. Voilà, je viens juste d'apprendre par contre que j'ai 100 semaines avant la fin du monde, ce qui fait que j'atteindrai pas la quarantaine, et bon, bah, ça va.
Bon, ça va, c'est dans 2 ans.
Ça se gère, ouais. Ouais, c'est mon boulot dans 2 ans.
On va faire le podcast 666, donc c'est bon, on a le temps de voir venir.
Ça s'ajoute quelque
chose. Et Romain est avec nous aussi, évidemment, toujours en direct du Japon. Un endroit sympathique, surtout en 60 FPS, n'est-ce pas, Romain ?
Formidable. Ça change tout.
Oui, parce que le Yakuza 6 en FPS boost, ça change absolument tout.
Et ce qui est tellement dingue, c'est que t'as rien à faire. Genre, j'ai lancé le jeu, en plus, il était déjà ouvert, donc il était en quick resume, et j'ai pas eu de mise à jour à installer ou quoi que ce soit, c'est juste, bam, FPS boost, sans rien faire.
Prends ça dans ta gueule.
La mise à jour, elle était peut-être instantanée chez toi.
Oui, non, mais là, où il y a forcément une mise à jour de la console, etc., mais le jeu en lui-même n'a pas été fermé ou quoi que ce soit, ça s'est juste activé automatiquement, et ça marche vraiment bien.
Eh bien, c'est la magie, voilà, c'est la magie de ce podcast dont nous allons vous parler immédiatement, nous allons faire le sommaire ensemble. C'est un peu un thème GOTY pour ce podcast, à savoir un GOTY potentiel qu'on vient de tester, qui vient de sortir surtout, un GOTY potentiel qui va sortir dans quelques jours et qu'on vient de tester aussi, et un GOTY potentiel qu'on attend depuis 1 an, 2 ans, et qu'on a enfin vu. Je parle évidemment de Returnal, qui est sorti la semaine dernière sur PS5, Resident Evil Village, qui lui arrive ce vendredi, et 12 Minutes, un jeu avec plein d'acteurs, parce que Thomas adore le monde du cinéma.
Ah, je suis super calé, mec.
Il pourra nous en parler, évidemment, tout à la fin. Mais avant ça, comme chaque semaine, vous connaissez le topo, on fait le win et le fail. Et en win cette semaine, mon cher Romain, quelque chose que les fans de Castlevania n'ont jamais espéré, en fait, de toute leur vie, puisque en 99, surtout en 2000, quand l'annonce de l'annulation de Castlevania Resurrection est arrivée, on se disait c'est foutu, on l'aura jamais. Et pourtant, pourtant, Romain, quelque chose a changé.
Ouais, alors on parle souvent dans ce podcast de la préservation et des problèmes avec des fermetures de stores ou différentes disparitions de codes, etc. Et ben là, c'est un exemple radicalement inverse, opposé, parce que le site Sega Dreamcast Info du très suisse Laurent Combi a fait un cadeau, on va dire, aussi bien aux fans de Dreamcast qu'aux fans de Castlevania, parce qu'il a réussi, grâce à son immense réseau de contacts, à mettre la main sur un prototype de Castlevania Resurrection. Et c'est une version qui avait été présentée à l'E3 99 en Behind Closed Doors. Et toi, Plume, ou Thomas, vous connaissez, vous avez l'habitude des salons tous les deux, donc vous savez comment ça peut être dans un salon. En général, quand tu as une version d'essai comme ça, parfois c'est un petit niveau, éventuellement avec un combat de boss juste dans la foulée. Mais là, non, c'est plus que ça en fait. C'est 4 niveaux jouables, et 5 si tu passes par un émulateur, parce qu'en fait c'était même marqué sur le GD-ROM. Il y a un bug quand tu y joues sur une Dreamcast normale, le dernier niveau n'est pas accessible, ça marche pas, parce que là encore c'est un proto. Mais par contre, si tu passes via un émulateur et que tu arrives à contourner certains trucs, ce cinquième niveau est accessible lui aussi. Donc évidemment, c'est une version qui n'est pas très très avancée, hein. Ils estimaient, je crois, que le développement avait atteint les 25%, parce que les Japonais aiment bien faire ça, décrire l'avancement en pourcentage de leur projet. Donc là, maintenant, c'est téléchargeable et c'est jouable de diverses manières. Vous pouvez passer sur un émulateur Dreamcast sur un PC. Vous pouvez aussi utiliser ça sur une Dreamcast normale, parce que je sais pas si vous vous souvenez, sur Dreamcast, en fait, les protections contre le piratage avaient été contournées assez facilement, et les pirates avaient même trouvé des moyens d'intégrer ces clés directement sur les CD, donc pour pouvoir mettre n'importe quel CD gravé sur une Dreamcast. Et donc là, les collègues de Laurent Combi ont justement fait une version de ce prototype gravable sur un CD lambda et utilisable sur n'importe quel Dreamcast. Donc, à l'heure actuelle, n'importe qui peut essayer ce prototype de Castlevania. Et c'est un cas d'autant plus exceptionnel qu'on ne pensait même pas que ce proto existait, en fait. Le jeu avait été donc présenté à une époque et depuis, plus rien. Annulé début 2000 dans la foulée. Et on ne savait même pas qu'il y avait un proto dans la nature. Ça s'est juste révélé il y a quelques semaines où quelqu'un, via Laurent Combi, a montré justement une photo du GD-ROM de Castlevania Résurrection. Donc, il montrait qu'il y avait un proto, au moins un proto quelque part dans la nature. Et bah, dans la foulée, ils ont réussi à obtenir l'accord du propriétaire de ce disque pour le mettre en ligne. Donc c'est chouette bah, pour les amateurs d'histoire du jeu vidéo, de préservation, etc., de pouvoir découvrir et essayer cette version. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour les fans de Castlevania qui ont la possibilité d'essayer cette version qui n'est jamais sortie et qui en plus proposait des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. L'héroïne, par exemple, qui était spécifique à ce...
Non,
à
cet, pas exactement.
Épisode. Ah non?
Non, en
fait, c'est toi l'expert en Castlevania.
Plus c'est l'héroïne d'un des épisodes parus sur Game Boy, Sonia Belmont. Et c'était sa deuxième apparition, mais cette fois en 3D. Ce qui était inédit, c'était Victor Belmont, qui était un personnage du 19e-18e siècle. Une espèce de Jean-Foutre de la famille qui allait se retrouver au milieu de tout ça. Enfin, un perso un peu différent de ce qu'il proposait d'habitude. Et c'était développé par les Ricains, si je me souviens bien. Et le truc, c'est que la PlayStation a été annoncée. La PlayStation 2 a été annoncée. Et du coup, chez Konami, ils ont fait la Dreamcast. Bah, en fait, non, c'est bon, on va arrêter. Et de toute façon, oui, voilà, quand c'était des jeux qui n'étaient pas développés par Tokyo, le destin des Castlevania était quand même assez compliqué, que ce soit pour les Castlevania 64 ou même encore Circle of the Moon qui n'était pas développé à Tokyo non plus. Bref, c'était une drôle d'histoire, mais comme beaucoup de monde, et pas que les fans de Castlevania, j'ai fait partie des gens qui ont bavé devant les screens dans les magazines en se disant « Putain, mais ça va défoncer, ça va être incroyable !» Et savoir qu'on peut y jouer aujourd'hui, bon, c'est peut-être un peu tard, hein, ça fait plus de 20 ans, mais bah, c'est toujours une bonne chose. Après, malheureusement, j'ai plus de Dreamcast et l'émulation, c'est une usine à gaz. J'ai voulu essayer de lancer le truc. Faut aller choper des BIOS, des machins. Stop. Donc du coup, pour l'instant, je prévois pas d'y toucher, sauf quand j'aurai peut-être 2 mois de congé. Mais là, c'est vrai que c'est une sacrée nouvelle. Il faut féliciter quand même les personnes qui ont permis que ce soit possible.
Je précise à ceux qui nous écoutent que Plumeau est quand même le plus calé d'entre nous en termes de PC et de bidouillage à la rédac, donc c'est vous dire si ça va être compliqué pour le reste.
Je croyais que tu allais dire Plumeau est le plus casé d'entre nous en termes de vacances.
C'est vrai.
Non, j'aurais pu rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il a tendu une perche grosse comme le bras, mais non, c'est pour vous dire à quel point ça peut être compliqué.
Et officiellement, enfin, d'après ce qui a été dit depuis, Castlevania Résurrection a été annulé, pas parce qu'il y avait la PS2, mais surtout en raison de désaccords assez marqué entre les équipes japonaises et américaines de Konami. Et on sait qu'au fil du temps, pas que chez Konami, il y a souvent eu des conflits entre les maisons-mères japonaises et les filiales américaines. Hein. Les gens de chez Sega of America pourront le dire aussi. Donc voilà. Et c'est... Je pense qu'avec, en ce qui concerne Laurent Combi et son site Sega Dreamcast Info, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il passe son temps à aller dénicher des raretés comme ça. C'est lui, par exemple, qui avait retrouvé les rushs et même acheté les rushs des pubs « Sega, c'est plus fort que toi » et qui avait restauré les bandes, etc. J'avais fait une news là-dessus l'année dernière, je crois. Et donc, il a encore plein de choses dans ses cartons et il continue de chercher du proto et des raretés. Donc, c'est bien. Et non seulement, c'est bien de se dire que ce truc-là n'a pas disparu dans la nature, mais qu'en plus, maintenant, il est accessible à tous, y compris ceux qui accepteront de mettre les mains dans le cambouis pour faire tourner le jeu sur PC, quoi.
Ouais, bah bon courage à eux, en tout cas. On va passer maintenant à un autre win, très rapidement, Thomas, parce qu'il y a eu une annonce au moment où on enregistre qui n'est pas encore parue.
Non. Mais au moment où vous l'écoutez, voilà, elle est sortie,
elle est là.
Hier en fin d'après-midi sur les coups de 17h30, et c'était effectivement l'annonce qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Flashback 2 arrivera en 2022 sur PC et console. C'est l'éditeur Microïds qui l'a annoncé donc hier après-midi, et pour l'instant, bah, rien d'autre qu'une lettre d'intention. Par contre, précision évidemment importante et indispensable, j'ai envie de dire, c'est Paul Cuisset, le vénérable Paul Cuisset, qui s'occupera de développer cette suite au tout premier Flashback qui est sorti il y a, oulala, près de 30 ans.
Il y en avait une qui existait déjà, Fade to Black.
Ouais, il y avait Fade to Black sur PS1.
Oui, mais là, ça sera vraiment Flashback 2. Donc, Microïds espère surfer un peu sur le potentiel nostalgique de cette licence, et je vois que Johnny a envie de dire, je pense, une grosse bêtise.
Ça sortira toujours sur Atari 2600 ou pas?
Écoute, c'est écrit PC et console dans le communiqué, donc tu mets ce que tu veux derrière le terme de PC, pas sûr que ça recouvre les micro-ordinateurs, mais voilà, c'était le petit bonus de dernière minute.
Et est-ce que M. Cuisset sera toujours tout seul pour le développer ou pas?
Mais il n'était pas tout seul à l'époque, hein. C'est Delphine Software qui l'a développé, et pas sur Atari 2600, sur Amiga et Atari.
Oui, pardon.
Un petit peu de dignité, s'il te plaît.
Je suis un peu trop jeune pour ça, moi.
Ouais, je sais pas.
Ça n'excuse rien, monsieur.
Thomas et moi, sachant qu'on a le même âge, je sais pas si c'est la même chose pour toi, Thomas, mais moi, je me rappelle que le Flashback à l'époque Super NES, etc., il y avait pas mal de gamins qui jouaient à Flashback. Il avait eu son petit succès, et je me souviens que mes camarades et moi, on s'est tous cassé les dents sur ce, sur ce jeu.
Ah, ça.
Avec sa physique bien à lui. Et
contrairement à Another World, je ne l'ai jamais terminé.
Sans émulateur, je n'étais jamais allé plus loin que le jeu télé. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, vous aurez
aujourd'hui, je crois que je l'ai sur CDI. J'ai la version CDI de Flashback.
Vous aurez l'occasion de réviser pour 2022, puisque Flashback 2 sortira cette année-là. Le fail, Thomas, on va continuer avec toi.
Oui.
C'est encore une fois une news qui concerne Konami, dis donc.
Tout à fait, mais qui pour le coup n'est pas une bonne nouvelle, puisque contrairement à ce qui avait été annoncé, eh bien Konami ne participera pas à l'E3 2021 qui se tiendra en ligne. On pensait d'abord qu'on pourrait compter sur la présence de l'éditeur japonais, mais alors qu'on fêtait il n'y a pas très longtemps les 35 ans du Konami Code, l'éditeur s'en est servi pour annuler sa participation. Ils l'ont annoncé là il y a seulement quelques jours, en précisant évidemment qu'ils continuaient de soutenir au moins symboliquement le salon, qui souhaitait évidemment beaucoup de réussite aux organisateurs de l'ESA, mais ils prétextent qu'ils sont un peu focalisés en ce moment sur tout un tas de développements, je cite, de plusieurs projets clés. Alors, vous mettez évidemment ce que vous voulez derrière, hein, on peut rêver. On peut penser effectivement à tout, ou peut-être des grandes licences qui dormaient dans leur catalogue et qui pourraient enfin revenir sur le devant de la scène. Et tout ça est à mettre peut-être en rapport avec une news qu'on avait publiée en tout début d'année. C'était toi, Romain, qui nous en parlait en expliquant que Konami était en train de se restructurer en fait en interne. Les trois production divisions, les trois studios majeurs avaient été en fait dissous, comme une certaine Assemblée nationale en 97, pour finalement être réorganisée. Donc on imagine qu'en ce moment, entre cette réorganisation, la gestion des différents projets, effectivement, la participation à l'E3 était peut-être pas si fondamentale que ça pour Konami, qui n'avait peut-être aussi pas grand-chose à annoncer, en tout cas pour cet été. Donc, comme Flashback 2, j'imagine qu'on les retrouvera sans doute l'année prochaine.
Alors, j'ai des petits éléments liés à ça. Je vais pas dire tout ce qu'on m'a dit, parce que je sais pas potentiellement jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, moi, ce que j'avais entendu,
c'est que la
présence de Konami à l'E3, ce que j'avais entendu, ça prédatait de l'annonce de l'E3, hein, c'était avant qu'on ait la liste, etc. C'est qu'il serait là, mais que la présence, ça serait pas énorme, ça serait pas des très gros trucs, et que des choses peut-être plus grosses viendrait peut-être plus tard dans l'année. Donc, c'est peut-être que pour le coup, tout a été décalé. Donc, les petits trucs de l'E3 viendront plus tard dans l'année et que les trucs plus gros viendront ensuite. Mais en tout cas, ouais, il y a effectivement des choses en développement chez Konami. Et là, pour le coup, Johnny, je ne pense pas qu'il soit question de Pachinko.
Non, mais j'allais dire à l'E3, en fait, ils auraient fait quoi s'ils n'avaient pas eu grand-chose? Ils auraient eu quoi? Un stand de chouquette, voilà, c'est tout, peut-être.
Mais non, mais il n'y a pas de
ça. Ça aurait été mieux que 2019. Hein. La dernière fois qu'on les a vus à l'E3, ils présentaient Contra Rock Corps. Donc, à la limite, qu'ils prennent leur temps et qu'ils reviennent en meilleure forme.
Ouais.
Voilà, ils ont leur
face à ce contrat. Les dernières années, Konami à l'E3, c'était PES et PES et un petit jeu à côté. Il y avait l'horrible jeu de sport sur Wii, là, sur Switch, qui avait été annulé d'ailleurs.
Oui. Je sais même plus comment il s'appelle, mais c'était OZEF le jeu. Oui. C'est une présentation qui marquera très longtemps. Effectivement, ça avait été annulé. Plume, tu voulais dire un truc?
Je voulais dire qu'ils ont un jeu qu'ils ont annoncé il y a pas très très longtemps. Leur espèce de revival d'une licence de la fin des années 80 là, qui va paraître sur Switch, qui était dans le dernier Indie Showcase. Ils eFootball PES 2022 Next Gen cette fois. Ça fait déjà deux trucs. D'habitude, il n'y a que PES dont on se souvient à peu près et les jeux Yu-Gi-Oh! Dont nous, on ne parle pas vraiment sur Gameblog. Et puis, faut pas oublier qu'il y a toujours cette suspicion que quelqu'un travaille sur Silent Hill de son côté pour le compte de Konami. Et puis il y a des rumeurs avec Metal Gear, il y a plein de trucs finalement qui pourraient exister. Mais c'est vrai que Konami, ils font rien, ils nous montrent rien.
Ils vont faire un Metal Gear Survive 2.
Disons que Silent Hill, moi j'en sais rien. Par contre, Metal Gear, je serais moins étonné.
C'était Hyper Sports R, le jeu en question.
Oh là 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 là. De triste mémoire.
Voilà.
Bon, bah écoutez, on a fini avec le win, le fail. Maintenant, on va passer aux trois thèmes de la semaine. Et le premier thème, il est sorti vendredi. Il fait beaucoup, beaucoup parler. Il fait jeter des manettes.
Je sens la retenue de Plume, je sais exactement ce à quoi il pensait, mais
je ne pense à rien, à part à retourner sur ma partie le plus vite possible, puisque je suis un peu accro pour tout vous avouer. C'est Returnal, donc, qui est sorti sur PS5 vendredi dernier, et qui, Johnny, on en a parlé la semaine dernière avec la preview, tu avais parlé des deux premiers niveaux. Maintenant, le jeu,
exactement.
Tu l'as, mais pulvérisé.
Oh, je le connais par cœur.
Voilà, donc on va pouvoir en parler un peu plus, entrer dans les profondeurs de ces mécaniques, de tout ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien, et se dire, est-ce que c'est pas un GOTY potentiel, donc un jeu de l'année potentiel. Voilà, je répondrai comme toi à la fin, je fais partie des gens qui ont pu y jouer un peu plus ces derniers jours, je crois que Poufy aussi a commencé. Donc, rappelons vite fait, Returnal, jeu de Housemarque, donc un studio qui est très habitué dans la production de jeux d'arcade. C'est Resogun, je crois.
Shoot them up, très particulièrement.
Très particulièrement.
Ouais, Resogun, c'est le plus connu parce que c'est celui qui accompagnait la PS4 au lancement et qui était prêté aux abonnés PS Plus. Voilà. Donc voilà, ça, pas mal de monde qui a posé ses doigts dessus.
Donc, jeu d'action, TPS, dans lequel on incarne une exploratrice spatiale qui s'échoue sur une planète et qui va découvrir son cadavre quelque part, mourir un peu après et découvrir qu'en fait elle va faire des boucles à chaque fois, en permanence, sur cette planète qui s'appelle Atropos. Pour résumer le style, c'est un roguelike, donc on va se retrouver à devoir continuer à toujours faire ses boucles en revenant au début de l'aventure avec quasiment rien de ce qu'on avait récupéré dans notre run précédent. C'est un principe que tout le monde connaît, Johnny.
Tout à fait, exactement. Alors le jeu, au début, il est vraiment extrêmement difficile avec le joueur parce qu'en effet, quand tu meurs, même si tu étais au niveau 2 ou au niveau 3, c'est retour à la case départ, là où ton vaisseau s'est crashé dans la toute première salle du jeu. Et tes armes, tu les as plus. Tes objets que tu avais récupérés de buff, tu les as plus. Les améliorations de perso, tu les as plus. Tu n'as plus rien. Il ne te reste qu'une monnaie secondaire qui sert éventuellement à faire 2-3 choses dans le jeu. Ça, on te la laisse. Et l'autre truc que tu déverrouilles, c'est les armes que tu as déjà déverrouillées. En allant un peu plus loin dans le jeu, tu peux les récupérer dès le début. Et les améliorations d'armes aussi que tu as déverrouillées, tu peux les récupérer dès le début. Donc, théoriquement, même si...
Et des objets qui te permettent de bouger à d'autres endroits.
Exactement.
Comme le sabre ou le grappin, par exemple.
Ah oui, il y a quelques petits objets permanents quand même. Donc en effet, un sabre, un grappin. Donc tous ces trucs-là, en fait, en vrai, donc les objets permanents, tu les gardes, mais la plupart des objets vraiment utiles, eux, tu les perds. Voilà. Mais l'avantage du truc, c'est que vu que tu as déverrouillé quand même quelques petites améliorations, ok, tu repars tout nu dès le début, mais tu repars pas vraiment tout... si à poil que ça. Parce que quand tu vas récupérer un flingue, bah, il sera peut-être déjà un petit peu amélioré. Et surtout, ce que tu vas connaître à force de mourir et recommencer, bah, c'est quoi ? C'est le jeu en lui-même, en fait, en vrai. Tu vas apprendre les salles, comment se déplacer dans des salles, tu vas apprendre les ennemis, comment réagir face à tel ennemi, comment réagir face à telle combinaison d'ennemis, tiens, qu'est-ce que je dois faire là dans ce cas-là ? Il faut prendre des décisions en direct, il faut être extrêmement réactif. Voilà. Donc en fait, en vrai, la clé du jeu, la clé du roguelike qui va te permettre d'avancer, ça ne va pas vraiment être les trucs que tu vas débloquer, ça va surtout être ta connaissance et ta concentration dans le jeu. Même si, hey, j'avoue, quand tu as fini le jeu et que tu es en post-game, quand tu déverrouilles dans le premier niveau le lance-roquette qui vide tout son chargeur d'un coup, tu as quand même un sacré avantage. Voilà.
Mais ce qui est pas mal, ce que je trouve intéressant, c'est que la mécanique qu'on appelle Die and Retry, tu sais, ça c'est connu dans le jeu vidéo depuis toujours. Enfin, c'est un moyen de progresser dans un grand nombre de jeux. Mais là, c'est d'une certaine manière associé à la narration avec le système, tu sais, de revivre non-stop la même séquence, etc. Là, c'est pas juste tu meurs, tu recommences un niveau. Ça s'explique dans la manière qu'a l'histoire d'être racontée. Ça, je trouve ça plutôt malin.
Tout à fait. La narration, elle est assez diffuse hein, dans le jeu. Il y a quelques cinématiques très rares qui sont pour la plupart toutes très elliptiques. C'est-à-dire qu'on ne te raconte pas tout dans les cinématiques. C'est à toi de te faire ta propre idée de ce qui s'y passe. Mais en effet, donc la narration, après, en termes purs et durs, elle se passe comment ? Elle se passe avec des logs audio que tu vas récupérer à droite, à gauche, dans les niveaux. Et dès le début, tu te rends compte que quand tu récupères des logs audio d'une autre version de toi-même, en fait, en vrai, bah, tu te rends compte que la petite Selene, elle est en train de devenir complètement dingue, que c'est en train de l'attaquer, de devoir recommencer depuis le début à chaque fois. Un peu comme le joueur, en fait, qui n'arrête pas de mourir et qui jette sa manette sur son écran. Lui aussi, il devient un peu fou, hein. Voilà. Mais ouais, donc en termes de narration, c'est assez bien intégré à l'histoire. C'est très diffus, mais c'est un vrai petit plaisir à chaque fois qu'on tombe sur un de ces logs audio de l'écouter, quoi. On fait ça assez religieusement et on essaye de prendre la substance de ce qu'il y a à apprendre dans ce jeu.
Et on parle aussi de tout ce qui est narration environnementale avec des environnements qui sont procéduraux, donc, mais c'est des pièces qui viennent s'assembler les unes après les autres.
Dans c'est toujours les mêmes pièces.
On trouve des hiéroglyphes qui vont nous permettre de déchiffrer aussi des éléments un peu d'histoire ou en tout cas de compréhension de ce qui a pu se passer sur la planète sur laquelle on se trouve, qui est quand même habitée, qui était habitée par une race extraterrestre visiblement intelligente, qu'on a visiblement un peu bavé. Et ça, ça participe un petit peu à cette ambiance qui est assez, assez démentielle. Alors, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que Metroid pourrait être s'il était en 3D. Parce que c'est des ruines, c'est la solitude, c'est des trucs. Et puis même au niveau audio, j'ai l'impression de retrouver des nappes de son qu'on pourrait entendre dans Metroid quand ça se gave un petit peu, quand ça se gâte un petit peu, tu vois, quand ça s'accélère, et avec des trucs, des nappes de synthé bien appuyées, c'est très très habile. Et de ce côté-là, il y a aussi visuellement l'aspect un peu Prometheus. C'est le premier truc qui me passe par la tête parce que c'est des grandes statues qui s'éparpillent un peu partout autour de nous, avec de la végétation aussi, et puis des sortes d'œufs d'aliens qui traînent au sol, là, qui te font choper des parasites. En termes d'ambiance, c'est quand même assez brillant.
Tout à fait. Non, le design est vraiment réussi globalement, hein, que ce soit au niveau de l'histoire ou même de tout ce que tu peux voir dans le jeu. Hein. Et encore toi, Plumeau, pour l'instant, tu as vu que les deux premiers niveaux, c'est ça ? Non, tu es arrivé au troisième. Ouais, tu es arrivé au troisième. Donc, bah, tu as déjà vu un petit peu ce que le jeu avait à proposer. Alors, c'est un petit défaut, ça, du jeu. C'est-à-dire que quand tu vas attaquer le cycle 2, Plumeau, quand tu auras fini le troisième niveau, ça va te ramener au premier. Tu vas refaire les niveaux 1, 2, 3. Sauf que ce ne sera pas dans la même temporalité et les niveaux ont beaucoup changé. Par exemple, le premier que tu connais, qui est tout bleu, il viendra. Non, ce n'est pas du spoiler, mais ça va changer de thème. Le niveau va changer. Voilà. Tu vas reconnaître des pièces, mais ce ne sera plus tout à fait les mêmes. Voilà.
Donc en fait, tu as 6 biomes qui sont plus 2 variations de 3 niveaux.
Ouais, exactement. Tu en as 3 qui sont avec 2 variations chacun.
Bah, voilà, c'est peut-être en ça que ça fait vraiment très jeu d'arcade. Hein, je pense qu'on va beaucoup le dire. Mais ça fait, quand tu progresses dans le jeu, T'as des ennemis que tu bats une première fois qui sont mais monstrueux. Tu vois des espèces de grosses bestioles avec des queues multiples là
qui t'agressent. Ouais, celui qui t'agresse, te tue au début du jeu.
Quand il t'agresse la première fois, tu dis oh putain, fais chier, il est dur quand même. Puis au bout d'un moment, tu commences à prendre le pli, à te dire ouais, mais c'est bon, un petit coup de lame, on n'en parle plus, etc. Et après, tu le retrouves sous d'autres formes par la suite, plus puissant. Et du coup, ça fait vraiment comme les vieux jeux d'arcade des années 80-90 où on te mettait une autre couleur pour te dire ah, cette fois, ouais, le petit bestiole volant là, et ben, en fait, il est plus fort. Alors fais attention à toi. C'est exactement ce mécanisme-là qu'on retrouve. Et vraiment, pour le coup, oui, c'est vraiment un jeu d'arcade. Sauf qu'on n'a pas trois vies, on n'en a qu'une. Et ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Johnny, on peut le dire.
C'est vraiment excellent.
En termes de maniabilité, en termes d'outils qu'on te propose pour les affrontements, en termes de profondeur, tout ce qui s'ouvre en fait à toi à mesure que tu progresses. Et c'est quelqu'un qui a galéré avant de réussir à passer le premier boss, qui est en train de découvrir des trucs. Je suis en train de découvrir des tas de possibilités qui n'existaient pas auparavant. Je pense au grappin. Avec le grappin, tu vis ta meilleure vie. Là, je suis arrivé à un moment.
Ça sera sur la jaquette.
Où tu as plusieurs emplacements pour mettre le grappin, et c'est un moment où tu as un gros boss en plus au milieu, donc du coup moi je me balade, je vais super vite, et là le jeu il commence à s'accélérer, chose qui n'était pas vraiment le cas auparavant. C'était vraiment du bullet hell où fallait que j'essaye d'esquiver, mais j'étais pas super super rapide. Par moment fallait que je mette un petit dash en plus, et par la suite ça commence à devenir il y a des trucs en plus de la stratégie quoi qui s'ajoutent, parce qu'on parle évidemment de du combat qui est très nerveux, qui est très réussi, intimidant les premières fois.
Ça m'a un peu fait penser à Doom, les affrontements. Tu sais, où dans Doom Eternal, tu as le lance-flamme, la tronçonneuse et le coup de poing. Tu sais, tu as ces trois mécaniques qui s'imbriquent. Tu retrouves un peu cet aspect-là dans Returnal, où tu dois vraiment décider ce que tu vas faire tout de suite.
C'est exactement du Doom Eternal. Tu n'as pas le droit de rester statique. C'est interdit. Non. D'ailleurs, il y a même un debuff qui existe où si tu restes statique tu perds des points de vie. C'est pour dire je l'ai chopé celui-là, j'y ai droit, et c'est exactement comme Doom Eternal. C'est il faut bouger tout le temps. Si tu bouges pas tout le temps, tu vas te retrouver dans la merde immédiatement quoi.
Moi je l'ai pas commencé encore, mais j'ai cru voir qu'il y avait des petits soucis avec les sauvegardes.
J'ai eu du sauvegarde sur le suivi des succès des trophées. Parce que j'ai pas mal joué hors ligne en fait. Du coup, le suivi des trophées se fait avec le menu de la Play 5. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire à la Play 5 hein, en fait. En vrai, le suivi il déconne. Il t'affiche pas les bons trucs, etc. Mais j'ai eu aucun problème de déverrouillage moi de mon côté.
Non, mais je parlais pas.
Tout s'est déverrouillé et même la sauvegarde, tout s'est bien passé.
Non, je parlais pas de bugs. Je parlais du système choisi par les développeurs pour faire les sauts.
C'est le gros défaut du jeu. C'est le
gros défaut. Ouais.
On n'a pas de système de sauvegarde comme dans un jeu comme Hades ou d'autres où tu rentres dans une pièce et si jamais, imaginons, tu dois couper la console ou tu as une coupure de courant ou il faut que tu t'éloignes, tu reviens à cet endroit-là. Ça n'existe pas dans Returnal. Returnal, c'est t'as éteint la console, c'est fini, tu reviens au tout début du jeu. Il y a pas. Tu es obligé de faire un cycle complet. Et c'est un peu le problème du jeu, c'est que pour les gens qui veulent faire des courtes parties et reprendre plus tard, c'est pas possible.
Et ça n'existe pas pour l'instant.
Développeurs,
a priori, ils ont entendu les critiques à ce niveau-là. Donc
oui, ils ont dit qu'ils avaient entendu le truc, mais va falloir trouver un système qui dénature pas ça et qui va pas permettre d'avoir un accès gruche, quoi. Tu vois, genre, au moment où je meurs, je vais couper la console et ça va me faire redémarrer au moment où j'étais avant de mourir. Et ça, c'est pas possible. Il faudrait effectivement un mode repos, mais qui n'oblige pas à mettre la console en veille.
La console à allumer.
Voilà. Et ça, ils ont malheureusement, c'est pour l'instant, c'est la console en veille. Et comme on sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de retour, il y a eu un bug il y a pas très longtemps qui avait été montré comme quoi certaines personnes en sortant de la mise en veille avaient des problèmes.
J'en ai eu.
T'en as déjà eu, donc imagine sur un jeu
des
comme ça.
Des bugs de
HUD. Ça fout la rage si ça t'arrive pendant que t'es dans un run de 2h30 et
le jeu a l'air d'avoir son petit succès quand même. On peut s'imaginer qu'ils vont essayer de l'entretenir et de corriger peut-être les petites imperfections que vous avez pu souligner tous les deux.
Ouais, bien sûr. Alors il y a eu déjà une première mise à jour qui est intervenue fin de semaine dernière. Moi, elle m'a rendu le jeu un peu catastrophique. Elle est parue juste après le test, le lendemain du test, je crois. J'ai eu droit à des crashs, des objets fantômes, tout ce que tu veux, patati patata.
Tentacule fantôme, moi.
Ouais.
Fantôme, c'est les trucs pour pouvoir monter sur une plateforme. Je les avais pas vus.
Bon, les objets fantômes, voilà, ça c'était dans l'ancienne mage. Mais il y a eu une nouvelle mage hier. Hier, j'ai continué à jouer, j'ai pas eu un seul problème. Voilà. Donc a priori, la deuxième mise à jour qui est sortie, la règle un petit peu déjà ce genre de petits problèmes de bugs qu'on a pu avoir. De toute façon, les mecs ils sont dessus. Hein. Je pense qu'ils laisseront pas leur jeu tomber, comme on l'a dit. Voilà.
Oui, surtout qu'il y a des défis quotidiens en plus. Donc, qu'il faut débloquer à partir d'un certain moment, si j'ai bien compris.
Je pense que les défis quotidiens sont déjà tous codés. Hein. Je pense qu'ils sont déjà tous dans le jeu.
Ah d'accord.
Voilà, parce que moi j'y avais accès pendant la période de test il y a il y a trois semaines, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc il y avait déjà les défis quotidiens. Donc ça, je pense qu'ils sont intégrés dans le jeu. Il y a un aspect dont on n'a pas vraiment parlé, c'est l'aspect exploration, qui en fait est excellent en vrai. Hein. Parce que c'est vrai que toutes les pièces, elles sont organisées d'une façon différente entre chaque partie. Mais en fait, en vrai, quand tu recommences le jeu depuis le début, tu te dis, j'ai perdu au niveau 3, je vais aller direct au niveau 3, recommencer. Bah non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faut te retaper le niveau 1, voire même te retaper le niveau 2 pour arriver complètement stuffé au troisième niveau. C'est-à-dire qu'en faisant le premier niveau, tu vas pouvoir récupérer un pouvoir sans suite qui va pouvoir te permettre de récupérer de la vie quand tu tires sur les ennemis. En faisant le niveau 2, tu vas récupérer une statue d'astronaute qui va te donner une vie en plus. Et du coup, avec ces deux trucs-là, tu es armé pour aller affronter le troisième niveau. Que si tu vas tout nu, là, c'est là où c'est compliqué, en fait.
Oui, voilà. c'est ça le truc dans la profondeur du jeu, c'est que tu as toujours ce rapport risque-bénéfice. Et le fait de choisir avec la monnaie du jeu, l'obolite,
c'est l'éther qui permet de choisir les risques.
L'éther, ça c'est pour c'est pour les trucs qui ont été infectés.
Ouais, qui ont été infectés.
Pour le matos que tu peux récupérer.
Ah oui, c'est toi qui choisis.
Dans cette station, t'as ça et savoir comment tu vas le dépenser parce que ça se trouve tu vas trouver un truc meilleur après. Pareil pour les armes. Quand tu vas ouvrir un coffre, tu vas voir une arme qui a peut-être une étoile en moins, mais qui a une force de frappe plus importante ou un tir secondaire qui est plus balèze. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut prendre en compte pour réussir à grimper. Et franchement, une fois que tu as compris comment déjà battre le premier boss et que tu l'as battu, donc tu peux aller au niveau 2 ensuite tranquillement, il y a vraiment un truc qui s'ouvre et une compréhension du jeu qui est très différente, notamment sur la notion de vraiment de flow du jeu, en fait, de toujours réussir à maintenir une espèce de perfection dans ton run pour que tout soit comme il faut. Je pense à l'adrénaline qui va te rajouter de la patate supplémentaire et d'autres bienfaits et toutes ces choses. C'est comme si tu avais des combos mais qu'on te le disait pas, en fait, et que les combos il fallait les maintenir pour
gagner les bonus,
toujours en forme.
À vous écouter, ça a l'air d'être typiquement le genre de jeu qui te fait rentrer dans la zone à partir du moment où tu commences à vraiment comprendre tout ce qui se joue et tout ce qui attend de toi, en fait.
Exactement. C'est l'argeuse. Exactement. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on parle beaucoup de roguelike pour le jeu. Le jeu, au début, c'est un roguelike. C'est-à-dire qu'il te fait quasiment recommencer de zéro. Mais quand tu as une petite dizaine d'heures de jeu au compteur, avec ta connaissance et les items que tu as déverrouillés et que tu vas pouvoir déverrouiller dès le début, le jeu n'est plus un roguelike, il devient un roguelite. Vraiment. Et la partie la plus difficile du jeu, c'est le début. Voilà. C'est t'y mettre, en fait. En vrai. Ouais. Une fois que tu t'y es mis, que t'es mort quelques fois, que t'as compris, que t'as acquis un peu de skill, là, c'est bon, c'est parti, t'es lancé, en fait, en vrai. Et le jeu commence vraiment.
C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et puis, j'ai envie de finir sur un des éléments du jeu rapidement, parce que tu n'as plus beaucoup de temps, mon pauvre Johnny.
Non.
C'est la DualSense. La DualSense qui est utilisée, mais d'une façon exceptionnel. Je parle pas juste des sons dans la manette, parce que j'ai joué qu'au casque. Et d'ailleurs, le son.
Ah, les sons à la manette, c'est top.
Ouais, le son au casque, d'ailleurs, c'est extraordinaire aussi pour
toi. Le son 3D, là.
Ça marche très, très bien. Mais l'utilisation qui est faite pour les tirs secondaires, c'est exactement ce qu'on attend de la DualSense, en fait.
Avec, en effet, le retour de force qui sert vraiment. C'est-à-dire, le début de la gâchette est mou. si on n'appuie qu'au début, et bah, ça vise. Et par contre, si on appuie à fond et donc on a la résistance, là, on passe en mode tir secondaire. Donc, en fait, tu as deux fonctions sur la gâchette. Alors, moi, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière dans le podcast. Déjà, pendant la preview, je galérais comme un gros porc à en fait, moi, quand j'appuie sur la gâchette, j'appuie à fond, hein, résistance.
Ouais,
j'arrive pas à appuyer doucement. Donc, j'appuie à fond. Donc, bah, du coup, moi, j'ai fait un choix dans ce jeu. J'ai bouclé le jeu. Donc, j'en suis à peu près 70 heures en tirant au jugé, sans viser. Voilà. Et j'y arrive très bien. Petit conseil à ce propos, ceux qui commencent le jeu, qui chercheraient des petits conseils, des choses comme ça, il y a un mode facile dans le jeu en fait. Le mode facile, il faut faire deux choses. Il faut activer la course automatique permanente. Ton personnage se déplace beaucoup plus vite tout le temps. C'est beaucoup plus facile pour esquiver. Et le deuxième truc, c'est active l'aide à la visée, tu la mets au maximum. Là, il suffit que, regardez, là, il y a mon truc. Là, s'il y a un ennemi qui est à peu près dans cette zone-là de mon écran, c'est bon, la balle elle va dessus. Voilà. Donc l'aide à la visée et le déplacement rapide, c'est le mode facile du jeu. Voilà.
Bon, bah, ça fera plaisir aux personnes qui pensent que le jeu est insurmontable.
Non. Eh, je roule tellement dessus en ce moment-là que j'ai fait un run hier, donc un run des trois premiers niveaux. Quand je suis arrivé contre le boss de fin du troisième, j'avais tellement d'objets de soins, j'avais une si grosse barre de vie que j'ai arrêté de jouer en fait. J'ai appuyé sur R2 et je suis resté devant le boss sans bouger. Et c'était au premier qui mourait. Voilà, et bah c'était lui.
Il faut combien de temps pour finir le jeu ?
Voilà.
Moi, en partant du début pour faire roll les crédits une première fois, ça m'a pris à peu près 30 heures. Là, je recommencerai aujourd'hui une partie du début avec la connaissance que j'ai, je pense qu'en 4-5 heures, je peux te le boucler. Voilà.
Alors moi, il m'a fallu 12 ou 15 heures pour réussir à battre le premier boss. J'avais fait 4 essais avant. Et là, bah, maintenant, je dois être à quoi, 15-17 heures, peut-être un peu plus. Je suis au niveau 3. Sachant que le niveau 2, je l'ai torché comme ça. Et le boss, il n'a pas fait un pli parce que j'avais déjà tout mon stuff d'avant. Donc forcément, mais à mon avis, c'est un jeu au très très long cours. Pour le coup, et ça fait un peu vraiment, encore une fois, c'est vraiment du jeu d'arcade. Hein. Sauf que tu n'as pas de pièces à mettre et que tu n'as pas de vie supplémentaire. Moi, je me revois encore en train de jouer à Bomb Jack ou à Bubble Bobble. Tu vois, c'est tout le temps la même chose. Hein. C'est t'y vas, tu crèves, tu fais bon, ok, je recommence. Allez, ok, je recommence. Et ça peut te durer, ça peut te durer très longtemps. Ah oui, putain, clairement.
Moi, je crois que je vais attendre une éventuelle modification du système de sauvegarde parce qu'avec des enfants en bas âge, j'ai besoin de pouvoir couper le jeu rapidement si besoin, sans tout perdre.
C'est eux qui vont prendre la manette dans la tronche.
Tiens, en termes de durée de vie, un joueur comme moi, donc, qui suis assez skillé mais qui a eu du mal au début, moi, il m'a fallu 30 heures à peu près. Plumeau, j'estime qu'il lui faudra 40-50 heures pour faire roll les crédits, peut-être. Voilà. Mais après, vous avez d'autres joueurs, comme notre ami Versinge, par exemple. Lui, en 15 heures, il avait torché le truc. Voilà. Donc, c'est assez skill dependent. Et après, tiens, je peux vous donner d'autres termes de durée. Moi, j'en suis à 70 heures. Donc là, il me reste que quelques heures de jeu pour avoir le platine. Voilà. Donc, où c'est de la collecte d'objets, donc des collectibles. Et c'est un peu la loose parce que les collectibles, bah, ils sont un peu aléatoires. On n'est pas sûr de tomber dessus en faisant notre partie. C'est le problème. Faire roll les crédits une trentaine d'heures, finir le post-game une quinzaine d'heures de plus, et avoir le platine une quinzaine d'heures de plus encore. Voilà.
Ah, voilà, c'est noté. On va essayer de respecter ces heures, ces nombres d'heures de jeu que. Moi, je pense que je peux faire mieux. Hein. J'ai quand même battu Doom Eternal et Hades, donc je pense que je peux faire un peu mieux que ce que tu dis. Et
le mec prend
là
des
pour
risques.
L'instant. Pour l'instant, on enregistre le 4 mai 2021, Johnny. Est-ce que tu pourrais considérer Returnal comme ton jeu de l'année ?
Bah, on est qu'en mai, mais pour l'instant, ouais.
Très bien.
Je cherche, est-ce qu'il y aurait d'autres trucs qui seraient sortis cette année ?
Non. À Monster Hunter Rise ?
Ouais, Rise, mais non, Returnal, moi, je le mets devant pour l'instant.
On est sur une nouvelle IP, là, en plus, et avec un mélange des styles qui n'est pas si commun.
Voilà. Exactement, Shoot Them Up, moi c'est quelque chose qui me parle en plus, c'est un truc que j'ai joué toute ma vie à peu près. Voilà. À une époque, j'ai même passé du 2-3 heures par jour sur du Danmaku chez Cave. C'est comme ça que ça rentre en fait, il n'y a pas de secret. Et Returnal, c'est pareil, il faut y jouer. Voilà. Au début, c'est dur, mais plus tu joues, plus tu réussis et plus tu y arrives. Et ça devient une espèce de drogue dure le truc en fait. Hein.
Ouais, je confirme.
On a envie
je suis en plein dedans. je suis en plein dedans, il me faut ma dose. Et je pense que Poufy, nous, on entend dans l'oreillette, ça va être pire que moi. Je pense qu'il va pas le lâcher pendant 3 mois et qu'il va nous faire des vidéos. Regardez, je pense que Johnny One, il va lui envoyer des mails, faire « Ah ouais, tu l'as battu en 5 heures ?» Bah regarde, moi, je l'ai battu en 3 heures.
Comme ça, quand on retournera au bureau, Poufy sera allongé sous son bureau, il y aura juste la tête qui dépassera.
Enfin bref, on aura l'occasion peut-être d'en reparler de Returnal, évidemment, jeu très surprenant de Housemarque sur PS5 et première grosse vraie exclusivité originale de la console. On en reparlera, évidemment. Maintenant, Johnny, on va te dire au revoir parce que tu as du travail.
Je fais des bisous, exactement.
Bah, nous aussi, on t'embrasse.
Voilà, ça figure.
Et puis bah, on se fait des bisous. L'avancée de ton run, ton dernier run Returnal. Bien sûr. Tu me diras quand t'as platiné.
Tout à fait. Exactement, je vous enverrai les messages. Bon, allez, bisous les mecs.
Ciao,
Johnny. Bonne suite de podcast.
Et voilà, maintenant enfin, que Johnny a disparu, on va pouvoir parler entre adultes. On va pouvoir parler surtout de Resident Evil Village parce que Johnny n'y a pas joué. Mais là, dans la pièce, il y a 3 personnes qui y ont joué, 2 qui l'ont fini, 3 qui l'ont fini. Quoi ?
Bah, il y a Poufy aussi.
Bah voilà, donc j'ai dit 3 d'abord. Oui, bon, alors 4 personnes. Oui. Donc. Toi, Thomas, qui ne l'a pas encore fini, et Poufy, moi, et surtout Romain, qui l'avons terminé. Romain, le test est paru au moment où vous écouterez ce podcast. C'est pour ça d'ailleurs que le podcast est un peu en retard, parce que, comme d'habitude, il faut respecter les embargos. Romain, parlons un peu de cette suite de Resident Evil 7.
C'est la suite, effectivement, de Resident Evil 7. Ça se ressent dans l'intrigue dès le démarrage. Mais je trouve, en plus de ça, que le jeu est encore plus intégré à l'univers de Resident Evil dans son ensemble. C'était un peu là dans RE7, surtout à la fin, avec l'arrivée. Enfin, je pense que c'est plus trop risqué de parler de la fin de RE7 maintenant, avec l'arrivée de Chris Redfield, d'un Chris Redfield défiguré d'ailleurs, totalement. Et donc là, non seulement vous avez la suite de l'intrigue avec l'histoire de Ethan Winters et de sa famille, et aussi des liens plus marqués avec la saga Resident Evil dans son ensemble. Que dire, parce que j'ai la liste des choses dont je ne peux pas parler sous les yeux, parce que oui, Capcom nous a envoyé un fichier long comme le bras avec.
Il y a des trucs quand même dans le tas, vaut mieux pas qu'on en parle.
Oui, bien sûr. Ah bah, de toute façon, je vais dire même de moi-même.
Je veux dire le retour de Wesker, pareil. Oh merde.
en écrivant mon test de moi-même, tout ce qui est dans la liste, je n'aurais pas envie d'en parler parce que ça fait partie du plaisir de la découverte de l'histoire. Et donc, ce sont des choses que je n'ai pas envie de divulgâcher, comme on dit en bon français.
L'Académie française te salue.
Alors, par contre, je sais pas comment vous le ressentez, vous. Mais moi, après, à l'issue de mon premier run dans le jeu, je me suis demandé si ce n'était pas le Resident Evil le plus audacieux depuis RE4, parce qu'on sait que jusqu'à RE4, la série était restée dans un système assez similaire avec les angles de caméra pré-calculés, enfin préétablis, les contrôles qu'on appelle tank, etc. Avec RE4, on est passé dans un gameplay plus action avec la caméra au-dessus de l'épaule à la troisième personne, un gameplay plus dynamique, etc. Et depuis RE4, on a eu RE5, RE6, un peu dans un même moule, même si RE6 était un petit peu plus différent dans sa manière de faire. Et après, donc, il y a eu le gros virage avec la vue à la première personne de RE7. Donc là, on reste dans la vue à la première personne de RE7. Mais malgré tout, comme le jeu est très découpé en séquences, je trouve que dans certaines de ces séquences, on a eu droit à des choses totalement inédites dans des Resident jusqu'à présent, et je trouve que Capcom essaye plus de choses avec celui-ci qu'il a pu en essayer avec d'autres épisodes auparavant.
Alors, depuis RE4. Pour commencer, je dirais déjà que le fait que ce soit un monde ouvert est une chose surprenante, parce que le fait est qu'on peut se balader, on peut vraiment se balader où on veut sans aucun chargement.
Alors, oui et non, ça dépend des moments.
Mais techniquement, même, tu vois, il y a même un endroit où moi, je ne peux plus aller. Je pensais que je ne pouvais plus aller. Tu m'as confirmé qu'on pouvait y retourner.
Oui.
Si on fait une exception des donjons, on va dire, des gros donjons, on va appeler ça les donjons, entre guillemets, on peut aller partout où on veut et y retourner quand on veut. Il n'y a pas, tiens, j'ai oublié ce collectible, là, il y a 3 heures.
Ça dépend beaucoup des moments.
Parce que là, c'est pareil, on est obligé de parler en code, mais le truc auquel tu pensais ne plus avoir accès et que moi, je t'ai dit, si, en faisant ça, tu peux y avoir accès, c'est pas dans le donjon même. C'est un autre lieu à côté. Donc, on va dire que le village qui sert de hub, lui, est ouvert. Après, les différents points d'intérêt liés au... Dans ce qui a été diffusé par Capcom, on a vu qu'il y avait Lady Dimitrescu, il y a, comment il s'appelle, Heisenberg, il y a Moro et Donna Beneviento. Ces quatre personnages-là, on les a vus. Et on sait que chacun d'entre eux est lié à un donjon, comme tu les appelles, Plumeau. Et autour de ça, il y a le village qui, lui est accessible librement entre chaque donjon.
Bon, mais je pense que si on parle d'audace vraiment par rapport à cet épisode-là, c'est plus la deuxième partie, si on découpe ça sur 5 ou 6 parties, qui est la plus étonnante de la part de Capcom. Thomas.
Je veux juste caser un truc avant qu'on parte là-dessus pour rebondir sur ce que disait Romain, parce que je suis doublement d'accord avec lui en fait sur le côté RE4. D'abord parce qu'il y a effectivement des tentatives, des choses assez nouvelles qui sont forcément surprenante et c'est d'autant plus normal qu'on n'en parle pas parce que ça gâche une partie de l'expérience à partir du moment où vous le savez. Mais en plus, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, il y a ce côté variation sur le thème de RE4 en fait dans tout un tas d'aspects. Alors des fois, c'est des petits emprunts, des fois, c'est des hommages qui sont un peu plus évidents, mais on sent que c'est l'épisode qui les a le plus inspirés pour bâtir finalement Resident Evil Village. Et de mon point de vue, c'est une très bonne chose parce que c'était un épisode absolument exceptionnel à l'époque de sa sortie. Mais du coup, ceux qui l'ont fait, j'en parlais avec Poufy ce matin qui lui attend de le découvrir, on va retrouver quand même beaucoup d'éléments finalement de RE4 tout au long de l'aventure, avec aussi cette prise de risque et énormément de nouveautés. Et du coup, les deux ensemble, ça fait quelque chose qui marche, je trouve, vraiment bien, qu'on connaisse ou pas bien l'univers de la série.
Et dans l'audace, je voulais aussi parler de aussi bien de la structure que du gameplay, mais aussi dans la narration. Et là, une fois encore, je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de trucs faits par Capcom dans l'histoire de Village. Je me suis dit, tiens, ils ont même réussi à me surprendre par un moment. Tu vois, il y a des... Je vois une scène, je fais, ah ouais, ils ont fait ça. Et ensuite, il y a un twist. Ah, je fais, ah, ils m'ont eu. Et ensuite, hop, ils refont un truc. Et je fais, ah, ben oui, mais quand même, ils ont tenté ça, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment essayé plein de choses dans cet épisode. Ils sont sortis un peu de leur zone de confort. Même si, quand tu commences, tu te dis, ah, quand même, Lady Dimitrescu, même si elle est ultra charismatique et que tout le monde l'adore, etc., ça reste quand même Mr. X. C'est complètement Mr. X du remake de RE2.
Le bruit des talons, putain.
Oui, voilà. Ah, la vache. Même sa manière de se mouvoir, sa manière de se présenter face aux joueurs, etc.
Et de l'esquiver aussi, du coup.
Voilà, c'est totalement Mr. X. Donc tu te dis, ouais, elle est cool, etc. Mais c'est du déjà vu. Et c'est... Et c'est là où tu te dis que Capcom, ils ont bien fait d'axer leur com là-dessus. Parce qu'en fait, c'est qu'une... c'est qu'une pincette de ce que le jeu est dans sa totalité, finalement.
Ouais, il est plus global dans son approche du survival horror de ces 20 dernières années que l'était Resident Evil 7.
Ouais. Et il y a un truc aussi que j'avais ressenti dans RE7 à l'époque, parce qu'il y avait un débat qui était à cause de la vue à la première personne entre certains qui disaient « c'est pas un Resident Evil » et d'autres qui disaient « mais si, regardez dans sa manière de faire les énigmes, etc., c'est un Resident Evil, enfin, il y a plein de trucs qui rapprochent de ça ». Et ben, je trouve que le côté Resident, il est encore plus marqué dans celui-ci qu'il ne l'était dans RE7. Moi déjà, je fais partie de ceux qui trouvent que RE7, c'est totalement un Resident. Pour moi, il n'y a jamais eu de débat à ce niveau-là. Et ben, je trouve que c'est encore plus marqué dans un village avec les énigmes, par exemple. Vous savez, il y a un truc qui va se présenter face à vous. Il va falloir trouver des éléments à associer progressivement pour pouvoir résoudre cette énigme et ensuite pour pouvoir progresser. Je trouve que c'est encore plus marqué dans Village que ça ne l'était dans R7.
Et même au-delà de ça, je trouve qu'en termes d'ambiance, je ne sais pas quelle a été votre expérience à tous les deux, moi je l'ai trouvé terrorisant, le jeu. Enfin, il y a une angoisse, il y a une espèce de tension par moment qui se dégage des environnements, de la spatialisation du son. Moi, j'étais tendu quand j'ai joué, surtout au début. Au début, t'as l'impression de beaucoup plus subir les choses, mais de ce côté-là, c'est vraiment un survival horror. La partie horreur, la partie terrifiante est véritablement présente, je trouve, dans l'aventure.
Et ça, c'est marrant ce que tu dis, en faisant le distinguo entre le début et la suite, parce que ça se ressent même dans le personnage d'Ethan Winters, je trouve, dans sa manière de gérer les événements. Au début, il est un peu...
Je crois que si on commence à parler d'Ethan Winters, il va y avoir des étincelles, parce que s'il y a bien un truc qui fout le jeu en l'air, c'est ses interventions.
Oui.
Oh, alors là, pour moi, c'est insupportable. Là, pour le coup, Capcom, s'il y a bien une chose sur laquelle ils auraient dû se freiner, c'est le fait de le faire intervenir sur tout. Genre, tiens, cette porte est fermée. Ça doit être Lady Dimitrescu. Il est en Captain Obvious tout le temps. Et au bout d'un moment, je pense qu'il est même plus énervant que Faye dans Skyward Sword.
Complètement. Vraiment. C'est mal écrit et c'est mal joué, putain. En plus. Ouais, il y a des moments, j'avais l'impression d'entendre Pef des Robin des Boîtes. Enfin, vraiment, il y a des répliques. Alors, surtout, tu parles de l'Obvious, mais il a en plus une réserve de punchline moisie. Mais vraiment,
oui, il est obligé de faire des punchlines.
Son naze. Et genre, après des boss fights, le mec, il dit « Oh, c'est celui qui dit qui y est !» Bon, voilà, et le jeu continue, et c'est vraiment, pour moi, le pire protagoniste en termes d'écriture depuis des années et des années, quoi.
Les punchlines, elles m'ont un peu dérangé aussi, puisque le contexte quelqu'un dans une situation comme celle dans laquelle il est, ferait pas forcément des vannes. Mais d'un côté, je me dis que ça peut aussi marquer l'évolution de sa confiance au fur et à mesure de la progression, parce que quand t'en es à avoir déglingué... Quand tu as déglingué 3-4 boss immenses, bah, progressivement, tu commences à prendre la confiance un petit peu et tu l'as mauvaise, bah, tu es énervé. Quoi. Enfin,
oui, mais ça ne se ressent pas dans le ton. On passe complètement à côté.
Peut-être que tu n'en es pas encore là, mais je ne me rappelle plus de quel c'est, mais je sais que c'est plus vers la fin. À un moment, il bat un boss et il dit un truc et tu te dis, mais... À sa place, tu réagirais un peu comme ça, tu vois, parce que c'est pas le premier boss que t'affrontes et t'en as gros, quoi, t'en as marre tu lui as mis cher et donc t'es content de lui avoir mis cher. Mais c'est vrai qu'au début, ces petites punchlines, j'étais là, putain, mais c'est pas un action hero et Ethan Winters, enfin, c'est pas, comme il s'appelle, c'est pas Schwarzenegger dans Last Action Hero qui enchaîne les vannes, tu vois.
Toi, tu te retrouves dans cette situation. On va te mettre en situation, Romain. Oui. La petite trace est enlevée. Voilà, tu dois aller la chercher dans un village roumain, dans la montagne. À chaque fois que tu vas battre quelqu'un, à chaque fois que tu vas ouvrir une porte, à chaque fois que tu vas ramasser un objet, à chaque fois que tu vas voir un truc écrit, est-ce que tu vas parler à toi-même à chaque fois?
Non. Bah voilà. Après, c'est peut-être un moyen de vaincre la peur, tu sais, de l'auto-persuasion face à la crise.
Non, mais vraiment.
Oui, mais Vincent, on ne croit pas, je trouve.
Ouais, voilà. Ethan, malheureusement, ce côté-là, ils ont un peu trop poussé.
Pour c'est le dommage. Oh là là, mais tout le monde meurt autour de moi, dis donc. Enfin, c'est vraiment.
Ah oui, mais putain, ça, c'est insupportable. Ah,
celle-là, c'est la première
fois. Vous avez joué en français ou en anglais?
En anglais, j'ai même switché en japonais à un moment donné pour voir si c'était moins naze.
Non, mais tu te parles souvent à toi-même en tapant du poing dans le sable en disant, mais pourquoi tout le monde meurt autour de moi? Merde! Tu vois, c'est pas possible.
Pour le coup,
ils essaient de mettre un peu d'émotion et ils y arrivent pas du tout, quoi.
Je trouvais qu'Heisenberg jouait encore plus mal qu'Ethan Winters.
Alors Heisenberg, il a ce
petit... Oui, il a un accent et une façon de parler qui est chelou.
Son accent ricain correspond pas trop avec
C'est pas trop un accent américain
autres.
Qu'il a, justement, Heisenberg. Il a un faux accent snob. Enfin, je sais pas, il a une façon de parler qui est assez chelou. Mais malgré tout, moi, dans l'ensemble, ça n'a pas gâché mon plaisir. Et quand tu parlais de la peur tout à l'heure, Thomas, je trouve que c'est lié à la manière qu'a eu Capcom d'utiliser la lumière dans
Entre
Village.
Autres, ouais.
Et le son, oui, le son, mais
le son. Le son, je jouais au casque, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs qui craquaient dans la pièce oui. Où je jouais. Mais vraiment, je flippais pas. Mais je me disais, mais c'est quoi, c'est le frigo qui fait ce bruit-là?
Je peux le dire, je flippais grave ma race.
Ah, moi, j'ai particulièrement noté
C'est pardon, je suis désolé, mais c'est complètement fou la façon dont ils ont géré la spatialisation et ils ont réussi à créer des bruits de craquement ou des trucs genre tout le temps quoi, des trucs qui mais des trucs cohérents.
C'est pour ça que je parlais de tension. T'as l'impression d'être jamais tranquille.
Tu dis il y a un truc qui va m'arriver dessus, qui va m'arriver dessus ouais. dans 2 secondes.
Et la lumière, tu as raison, Romain.
Hein?
La lumière, tu as raison. Ouais.
Je pense particulièrement au premier donjon, on va dire, quand tu es dans les sous-sols du château, et que, fait dans les cellules, en fait, dans le sous-sol, et c'est là que tu croises les sortes de zombies, pas les lycans, pas les loups-garous qu'on peut voir à l'extérieur dans le village, là, vraiment, les sortes de zombies, et le tout premier, il sort de l'ombre progressivement, en fait, tu l'entends avant de le voir, et là, il avance, et j'arrive pas à voir, parce que la luminosité, souvent dans le jeu vidéo, enfin le noir, c'est assez brutal. C'est soit tu vois pas, et d'un seul coup tu vois. Et ben là, en fait, le personnage sort de l'ombre en boitant un peu tout doucement. Et je trouve que ça l'effet marche super bien. Et il y a plein de moments dans le jeu où la lumière est utilisée comme ça, l'obscurité. Et c'est là où on peut venir en parler de l'utilisation du ray tracing sur PS5 et j'imagine sur Xbox Series X aussi parce que j'ai pas joué à la version Xbox
et sur PC puisque
on va dire les versions new gen et PC et je trouve que ça marche vraiment super bien d'autant plus que ton framerate est pas amputé tel que dans certains jeux. C'est si tu utilises le ray tracing, et bah tu joues en 30 FPS. Là, non, tu joues peut-être pas en 60 full lock comme quand tu le désactives, mais malgré tout, ça reste dynamique et ça fonctionne bien. Et j'ai essayé.
Chez Heisenberg, j'ai eu quelques soucis.
Ça s'est retombé un peu par moment.
Il faut dire que chez Heisenberg, c'est un peu. Je veux pas spoiler, hein, mais c'est quand même assez what the fuck et beaucoup plus, on va dire, lumineux, non pas lumineux, mais il y a plus de réflexion que dans les autres endroits. Et là, ouais, j'ai eu des moments où ça a chuté très très fortement.
Ah, moi je l'ai pas trop ressenti. Et après j'ai fait des essais sur, j'ai rejoué à la même séquence à la suite et je relançais ma sauvegarde avec et sans ray tracing. Et même si le jeu est très beau sans. Je trouve que le jeu de lumière rajoute vraiment quelque chose avec le ray tracing parce que de mémoire, moi les résidents, je les ai tous faits. Je trouve que l'obscurité a jamais été utilisée comme elle est utilisée dans Village. Il y a des moments où vous êtes vraiment quasiment dans le noir et vous voyez quasiment rien. Et si vous prenez par exemple une pièce qui est pas totalement éclairée mais dans laquelle il y a une bougie. Si vous désactivez le ray tracing, la pièce dans son ensemble va être plus claire. Alors que si vous activez le ray tracing, eh ben on va voir que l'entourage direct de la bougie sera plus éclairé que, on va dire, l'autre coin opposé de la pièce qui, lui, sera plus sombre parce que la lumière n'ira pas jusque-là. Et je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à l'angoisse et à l'ambiance.
Oui, et la gestion de la lumière aussi qui génère des ombres. Justement avec ton personnage qui s'intercale et qui crée aussi des moments de tension comme ça parce que tu vois quelque chose arriver, en fait c'est ta propre ombre portée sur un mur, mais ça continue de te faire flipper aussi. Et il y a une mécanique que j'ai beaucoup appréciée, qui voulait faire je crois déjà pour RE5 à l'époque, c'est le temps d'adaptation de la rétine. Quand tu pénètres justement dans une pièce, tu es à l'extérieur et tu rentres dans une maison au volet fermé, la transition ne se fait pas automatiquement. Il y a un tout petit moment où ta pupille s'adapte, enfin, où la pupille d'Ethan s'adapte au moment où il rentre, ce qui fait que tu ne distingues jamais vraiment ce qui t'attend au moment où tu rentres quelque part. Ça continue justement d'entretenir le mystère avec tous ces bruits qu'il y a autour qui te laissent présager du pire généralement. Et tout ça fonctionne vraiment merveilleusement bien en termes d'utilisation de la lumière. Moi, ça m'a mis de bout en bout, même si je ne l'ai pas encore terminé, vraiment sur le cul parce que dès le début, je trouve qu'il y a une gestion de l'ombre, de la lumière en termes artistiques qui est vraiment splendide. Enfin, moi, c'est comme ça que je le définirais. C'est splendide de ce point de vue-là.
D'autant que le jeu est magnifique. Ouais. De manière générale, le jeu est quand même vraiment magnifique. Tu parlais de la partie artistique, que ce soit artistiquement pour distinguer les différents environnements dans lesquels on passe, comme la réale en elle-même, vraiment, c'est assez irréprochable.
Tu as juste un peu de popping de temps en temps dans le village.
Ouais, je l'ai remarqué aussi. C'est le même moteur que RE7, mais il y a vraiment, il y a vraiment un gap entre les deux jeux. Et c'est aidé. la puissance du moteur est donc bien exploitée et c'est en plus géré par une direction artistique qui est vraiment top, parce que le château de Dimitrescu là, c'est franchement c'est super beau. Et pareil, on avait déjà vu des grandes bâtisses, des manoirs, etc. Dans Resident, mais là avec toutes ces dorures, ces meubles, ouais, etc. c'est vraiment différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans la série. Et ça marche super bien. Et aussi, dans la direction artistique, je note l'utilisation du son, parce qu'on parlait du positionnement, etc. Mais aussi les ambiances musicales. Elles sont vraiment, d'une zone à l'autre, elles sont vraiment totalement différentes. Alors les musiques, globalement, sont assez discrètes. Hein. La bande-son, on ne se la prend pas dans les oreilles en permanence.
C'est raison, parce que tu es seul. Justement, tu te sens un peu isolé avec ça.
C'est lié à certaines parties, etc. Mais par exemple, la zone d'Heisenberg, l'ambiance musicale, elle est totalement différente de ce qu'on entend dans le reste du jeu, et même de ce qu'on pouvait généralement entendre dans les jeux de la série. C'est une sonorité différente, c'est limite un style musical différent de ce qu'on peut de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Et donc, il y a vraiment eu un travail sur la variété, sur les... Ils ont essayé des choses dans le jeu à plein de niveaux différents. Et vous parliez toi, Plumeau, t'as dit que la réal était irréprochable. Moi, le seul petit bémol que je mettrais sur la réal de Village, c'est que je trouve que les visages sont inégaux. Tu vois, par exemple, il y a Heisenberg, Lady Dimitrescu ou Chris Redfield, par exemple, que je trouve visuel. Enfin, alors je trouve leur visage super bien fait. Très réaliste, etc. Par contre, Mia, qu'on voit au tout début du jeu, elle, je trouve que son visage, il est moins réaliste. Ça fait plus lisse, plus jeu vidéo à l'ancienne, tu vois. Alors que Heisenberg ou Lady Dimitrescu ou Chris Redfield, il n'y a pas que qu'on croise dans le jeu. Hein, je donne ces exemples-là. Eux sont très 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 bien faits, je trouve. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que globalement, visuellement, c'est très très satisfaisant. C'est vraiment super beau. Bah, c'est l'épisode, bon, après évidemment, mais c'est l'épisode le plus réussi visuellement de la série, je trouve.
On peut finir en... Ah, Thomas, tu veux rajouter un truc avant?
Juste dans les petits couacs, des choses qui m'ont un peu embêté, c'est cette propension que le jeu a de temps en temps à devenir linéaire et à te dire, finalement, tu pensais que tu allais pouvoir faire ce que tu voulais. Et ça n'aurait pas été un problème si Capcom ne l'avait pas utilisé autant de fois, je trouve, dans l'aventure. Mais il y a plein de moments un peu plus gênants où tu dis le jeu m'oblige à aller dans cette direction là et à faire tel ou tel truc, là où tu pensais que globalement tu avais une liberté d'exploration qui est bien présente et bien réelle. Mais ces petits moments là m'ont un tout petit peu gêné. Et pour contrebalancer, il y a aussi un très bon point, je trouve, c'était un ressenti personnel, le feeling des armes est super bien foutu. Je trouve que tu ressens visuellement tout l'impact des différentes armes que tu utilises, la manière dont la localisation des impacts est gérée. Il y a un côté très satisfaisant, je trouve, à prendre son temps à viser, à élaborer une stratégie, parce que ça marche vraiment bien. Voilà, c'était les deux petits points que je voulais rajouter.
La DualSense, les gâchettes, pour le coup, c'est un peu discret dans la manière d'utiliser les gâchettes. Et je trouve que dans les séquences d'action un peu frénétiques, parce qu'il y en a par moments où ça dégénère et que tu as besoin de... l'utilisation des gâchettes est presque gênante par moments, parce qu'en fait, tu ressens l'effet qu'on va dire un tir sur deux. Je ne sais pas si ça vous a fait
impression. Ça se ramollit d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, il y a un coup, tu vas devoir appuyer comme un dingue pour réussir à tirer. Et le coup d'après, tu vas appuyer trois fois sans qu'il y ait eu de résistance dans la gâchette. Ça, c'était un petit peu étrange. Mais sinon, je te rejoins, Thomas, sur ce que tu disais sur la linéarité de certaines zones. Et en fait, il y a presque un virage action qui est pris par moment dans le jeu, où tu ressors un peu du survival horror au profit du jeu d'action. Alors après,
on peut peut-être le dire que la dernière ligne droite moi j'ai l'impression que Capcom retombe dans ses travers de Resident Evil 6 à ce moment-là.
Ouais. Alors après, ça peut peut-être un peu se justifier par la narration. Mais oui. Là encore, il faudrait qu'on fasse limite une autre vidéo où on spoil à tir l'arigot. Oui,
bien sûr, néanmoins, pour quelqu'un, je parle de mon point de vue, mais pour quelqu'un qui a été justement épaté par, les 4-5 premières heures du jeu, et surtout la deuxième partie, qui est exceptionnel. On n'a pas le droit d'en parler, malheureusement. Mais
tu veux dire le deuxième donjon, plus.
Voilà, le deuxième donjon, que je trouve vraiment exceptionnel et très couillu de la part de Capcom. Le fait que... on est un jeu qui a un rythme vraiment très très bon, hein, qui est très soutenu. D'ailleurs, le jeu, toi, il t'a duré 11 heures, Poufi 11 heures, moi j'ai mis à peu près 12 heures, et je trouve que c'est juste le temps qu'il faut. C'est bien de ne pas, pas avoir fait plus, mais quand même, la tendance à vouloir revenir dans le bourrin est quand même, se ressent vraiment beaucoup trop sur la fin, même si elle se justifie, hein, comme tu dis, mais j'aurais préféré personnellement qu'on reste dans... dans la flip, dans j'ai plus beaucoup de balles, tu vois, dans ces choses qui font que qu'on est dans le survival horror, à la limite qu'on garde, comme c'est le cas dans les premiers Resident Evil, tu vois, un élément bourrin, tu sais, Ada Wong qui te balance le rocket, qu'on garde ça pour un boss final, pourquoi pas, mais je sais pas, je suis un peu moi je suis bien redescendu en fait. Une fois qu'on a, on a atteint la deuxième moitié du jeu, les deux tiers du jeu, ouais. Je redescends beaucoup à cause de ça.
Bah, le truc, c'est qu'il y a, déjà, ils ont ajouté le système de crafting. Donc, à partir du moment, et comme chaque ennemi que tu bats lâche des objets, et que tu peux même en trouver un peu à droite à gauche, c'est assez, en fait, ça peut arriver, hein. Mais c'est assez compliqué de tomber à court de tomber à court de munitions. Et en plus, moi, j'ai joué comme à n'importe quel autre épisode de la série. Moi, je fais des allers-retours. Quand je vois qu'il y a un meuble qui nécessite un petit outil pour être ouvert, dès que j'ai un outil, j'y retourne. Si je sais qu'il y a un trésor à tel coin de la map et que j'ai de quoi l'ouvrir, j'y vais. Et donc, ce qui fait que je me suis retrouvé à la fin du jeu quand même plutôt bien équipé. Mais ça, c'est assez symptomatique de ma manière de jouer au jeu de la série, parce que j'ai refait Rebirth pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et à la fin, contre le tyran, j'avais un magnum avec quasiment 30 balles, j'avais plein de balles de fusil, enfin, j'étais tranquille, tu vois, et ça, c'est genre une dizaine d'objets de soins, tout, mais j'ai toujours joué comme ça, donc c'est...
J'ai une petite question pour vous qui l'avez terminé. Est-ce qu'on profite, comme dans les anciens opus, de pouvoir relancer une partie avec des bonus ou des trucs comme ça ? Parce que j'ai déjà très envie de le refaire dans un niveau de difficulté supérieur.
Alors,
si vous avez le droit d'en parler.
Oui, on a le droit d'en parler. Oui, tu peux. Alors, en fonction de, par exemple, comme toujours, en fonction de ta manière de terminer le jeu, du temps que tu as mis, etc., tu peux débloquer des bonus. Et en réalisant certaines actions dans le jeu, en fait, tu débloques des points. Ce qui est une boutique in-game qui s'ouvre après le jeu, et tu peux dépenser tes points pour débloquer certaines armes avec des conditions spécifiques, etc. Donc, d'accord. Oui,
mais ça, tu ne l'apprends qu'en post-game, en fait.
C'est que en post-game. Mais okay. Donc, tu as des moyens, justement. Moi, j'ai recommencé, j'ai commencé un deuxième run. Je ne l'ai pas fini une deuxième fois, mais en augmentant la difficulté, mais justement avec l'utilisation d'une arme, on va dire, aux munitions infinies. Et là encore, tu as la possibilité, si tu remplis certaines conditions, d'avoir plein d'armes en munitions infinies. Mais pour toutes les avoir en munitions infinies, il faudra que tu recommences le jeu quand même un certain nombre de fois. Mais moi, en tout cas, j'ai réussi, avec mon premier run, j'ai réussi à en débloquer une en munitions infinies. Et donc, j'ai relancé pour voir comme ça. Et c'est vrai que ça change complètement complètement l'ambiance. Parce que là, pour le coup, tu n'as plus peur. Là, tu y vas la fleur au fusil et tu déglingues tout. Mais oui, tu as cette possibilité de retenter le jeu clairement plusieurs fois différemment.
Fort bien.
Bon. Écoute, en tout cas, on est tous, je crois, assez ravis de notre expérience sur Resident Evil Village, ici, mine de rien.
Et juste un truc, il répond à des questions, dont certaines remontent à loin, mais il en pose aussi pas mal de nouvelles questions. Donc maintenant, vraiment, j'ai hâte de voir Resident Evil City ou Resident Evil, après
Online.
Tout simplement. Non, faut trouver un jeu de mots avec I et X, parce qu'ils vont chercher un truc avec 9, tu vois. Donc,
Ah ouais. Alors, un mot qui finit avec I et X dans les lettres.
Enfin, les paris sont ouverts.
Ce qu'ils feront pour la...
Ça se passe à 4X, je sais pas, enfin, où est-ce que ça pourrait être ?
Ouais, il y a plein de questions qui se posent, et j'ai hâte que Capcom donne des réponses à ça.
Mais tu sais qu'on attend toujours des réponses pour Jack Mueller, hein, parce qu'il aurait dû être... il aurait peut-être... C'est bien le fils de Wesker dans Resident Evil 6. Il aurait dû être dans d'autres épisodes, lui. Il a été un peu abandonné, ce pauvre garçon.
Je pense que l'accueil qu'a reçu RE6 a fait que Capcom a dû changer pas mal ses plans à ce niveau-là.
Et tant mieux pour nous.
Et tant mieux pour nous, oui. Parce que je préfère largement ce qu'ils ont fait depuis que s'ils étaient restés dans le style de RE6. Bon. Mais en tout cas, oui, c'est un très bon épisode.
Très bien. Eh bien, écoute, merci Romain. On va passer maintenant au dernier thème de ce podcast qui ne va pas durer très longtemps. On va le consacrer exactement 3 minutes à 12 Minutes. Donc, 12 Minutes, qui est un jeu édité par Annapurna, qui nous a fait de l'œil dès son premier trailer, qui avait été diffusé durant une conférence Xbox. Alors, je ne sais plus si c'était à la Gamescom ou à l'E3 2019.
C'était à l'E3.
Et donc, qui en quelques instants a réussi à vraiment tous nous happer par son principe, à savoir, encore une fois... un roguelike, mais un roguelike point and click, vu du dessus, c'est-à-dire que vous allez revivre une boucle temporelle, scénaristique, en permanence, sur une espèce d'histoire de meurtre bizarre. Toi, tu as pu en voir enfin un peu dessus, tu as même pu discuter d'ailleurs avec son réalisateur, Luis Antonio. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc en 3 minutes, de 12 minutes ?
Bah, vous expliquez un petit peu comment ça marche, parce que jusqu'à présent, on avait vu plein de petites choses, plein de petites séquences, mais là, on a vraiment vu un moment du jeu, plutôt au début, où, si vous l'aviez loupé jusque-là, hein, tu l'as dit, 12 Minutes, c'est présenté comme un thriller narratif, vu du dessus, uniquement vu du dessus, et c'est fait exprès, puisque Luis Antonio nous expliquait qu'il n'avait pas envie de modeler de visage, et qu'il se reposait plutôt sur le langage corporel, finalement, et l'interprétation des trois acteurs qui vont composer ce trio de personnages, pour justement faire passer tout un tas d'émotions, et le jeu a priori commence alors que le protagoniste rentre chez lui, trouve sa femme qui a commencé l'apéro finalement sans l'attendre, qui est déjà un petit peu éméchée. Ils discutent tous les deux et on voit un peu quelles sont les actions qu'on peut effectuer. Tu l'as dit, c'est plutôt du point and click, donc on va aller par exemple en bon gentleman lui chercher un verre d'eau, lui amener, ça va lui permettre de se poser un petit peu, de discuter, et à un moment donné, twist, un flic, en tout cas quelqu'un qui se dit flic, rentre dans l'appartement de manière un petit peu violente et commence à ligoter les personnages. Et comme toi, tu n'y étais pas préparé, tu ne sais pas forcément quoi faire, tu te fais ligoter, mettre au sol. Il pose tout un tas de questions sur une histoire de meurtre un petit peu bizarre et n'obtenant pas de réponse, il finit par s'énerver et tuer ton personnage. Et du coup, c'est la fin. Et on recommence. Sauf qu'on recommence vraiment à la seconde où ça s'est terminé. Du coup, on se rend compte que le personnage principal a gardé exactement les souvenirs de la scène qui vient de se terminer. Il vient de mourir, il vient de garder tous ces souvenirs-là. Et l'intrigue reprend. Et donc, tu rentres chez toi et évidemment, il trouve ça bizarre. Il en parle à sa compagne qui ne le croit pas. Et du coup, ça t'ouvre en fait des nouvelles lignes de dialogue puisque tu as recommencé la boucle avec des éléments nouveaux en tête. Et donc, tu peux lui parler en fait de ce qui va se passer. Elle n'y croit pas, te demande des preuves que tu n'arrives pas à fournir pour l'instant. Donc il faut plutôt mettre ça de côté, examiner un petit peu l'environnement. Alors c'est très limpide hein, en termes de mécanique de point and click, on n'est pas du tout dans quelque chose de complexe pour être complexe comme ça a pu être le cas dans les années 90 par exemple. Et là on voit par exemple qu'il y a un couteau en évidence dans l'évier et on se dit que bon, vu que le type arrive et va a priori nous buter une nouvelle fois, autant s'armer du couteau. Et à partir de là, tu peux choisir de l'attendre dans ton salon, ça ne marche pas. Donc tu peux retenter une boucle en te disant d'accord, j'élimine cette option là, la salle de bain est ouverte, donc tu vas te cacher dans la salle de bain et en fait au fur et à mesure des boucles tu vas en apprendre de plus en plus, tu vas apprendre à progresser en fait, mais de différentes manières, puisque on a cru comprendre en discutant avec Luis Antonio que on va dire que certains embranchements n'auront pas forcément de finalité mais vont plus te servir à débloquer autre chose qui va te permettre après de continuer l'intrigue, intrigue qui a priori dans sa globalité durera 12 minutes puisqu'en fait c'est la durée de la boucle complète de cette petite aventure, donc ça va se passer sur une très courte période de temps, mais voilà, on est face à quelque chose de très intéressant. On n'en a pas vu malheureusement beaucoup, mais ce que j'ai vu a vraiment réussi à piquer ma curiosité. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on a pu lui poser tout un tas de questions. Je vous invite à lire l'interview qu'on a publiée sur Gameblog, qui est très très intéressante, qui nous apprend beaucoup de choses sur le jeu. Il y a un des trucs qui a retenu mon attention, c'est que selon lui, il n'y aurait pas forcément de fin au jeu, c'est-à-dire que tu vas explorer au fur et à mesure tout un tas d'embranchements scénaristiques, tu vas comprendre des choses, tu vas comprendre ce qui se trame en fait dans cette histoire, mais en gros, c'est plutôt au joueur de décider à quel moment 12 minutes sera terminée. Tu n'auras pas forcément un staff roll et le mot fin qui s'affichera à la fin. C'est à un moment donné, tu estimeras que tu as vu assez d'éléments scénaristiques pour te faire ton idée sur ce qui se trame et que l'aventure s'arrêtera là en fait en fonction de ta propre perception des choses. Donc il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui nous attendent. Malheureusement, on n'a toujours pas de date de sortie. Luis Antonio nous a certifié que ça arrivait très bientôt. Donc, on peut a priori se dire que ce sera là avant la fin de l'année 2021. On l'espère évidemment sur PC et Xbox. Mais voilà, ça nous a évidemment donné envie d'en voir beaucoup plus et très vite. Donc, on se retrouve, j'espère, dans quelques tout petits mois pour le test de 12 minutes.
Ça pourrait bien être une beaucoup, sortie ça. Surprise de l'E3, enfin, dans la période de l'E3 ou un truc comme ça.
Ça peut tout à fait jouer la carte du « c'est disponible maintenant ».
Si seulement, mais ça me fait beaucoup penser au jeu de Sam Barlow, la façon dont tu décris le fait qu'il n'y ait pas de fin et qu'on peut s'imprégner de l'histoire comme on en a envie en fonction des éléments qu'on a. Tu vois, Telling Lies et Her Story, c'est la même chose. Et qu'à un moment, tu peux te retrouver avec les crédits, mais ça se trouve, tu as loupé des éléments ou ça se trouve, tu en as vu plus que ce que tu croyais. Enfin bref, il y a plein de choses très intéressantes et ça me fait penser un peu à ça. Et ça a l'air toujours aussi bien. Rappelons quand même qu'on a... trois acteurs de grand renom qui font partie du casting que tu connais par cœur en plus, Thomas, ça tombe bien.
Oui, Daisy Ridley et James McCoy dans le rôle du couple et William
McAvoy. McAvoy.
McAvoy, oui. Pardon, mon doux seigneur. Et Willem Dafoe qui joue ce flic qui n'a pas tout à fait l'air d'en être un. Je ne spoile rien, c'est juste mon interprétation personnelle de ce que j'ai vu. Mais effectivement, les trois livrent une prestation d'autant plus fondamentale qu'elle va justement beaucoup servir, puisqu'on ne voit pas les visages des protagonistes. Il y a a priori beaucoup d'implications de leur part. C'est un des éléments qui ressort aussi de l'interview. C'est qu'ils ont essayé de vraiment s'imaginer les scènes et de se mettre physiquement en position pour essayer de retranscrire quelque chose qui soit le plus chargé possible en émotions et en informations.
Ce qui est marrant, c'est que tu dis, tu parles des ressemblances avec un point and click, mais finalement, dans ce que tu décris, il y a aussi des ressemblances avec du visual novel, je trouve.
Oui.
Parce que, par exemple,
ou un jeu d'enquête.
Je pense à 428, où tu avais certains moments, tu faisais progresser l'histoire jusqu'à un moment où tu arrivais à un cul-de-sac et tu pouvais pas aller plus loin, l'histoire s'achevait pas vraiment là, mais ça te permettait en reculant d'accéder à d'autres pans du scénario et par contre arriver à progresser à d'autres niveaux. Donc ça a l'air d'être ce mélange de genres très narratifs, mais de genres narratifs différents, ça a l'air d'être vachement intéressant.
Effectivement, ça a l'air et on attendra donc la date de sortie. Bien chargement.
Chargement,
absolument. Chargement. Ainsi s'achève ce podcast 566, plus que 100 épisodes, je rappelle. Merci à vous de votre fidélité. Merci Thomas, merci Romain, merci Poufi. À la Sono toujours, merci Johnny One, même si tu nous as quittés, malheureusement, pour aller travailler.
Et puis, on se retrouve...
Enfin, vous allez retrouver l'équipe la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau podcast. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao.
Ciao.
Bisous.